Philippiens chapitre 1, ce matin nous lirons les versets 19 à 21. Car je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous venons devant toi ce matin. D'abord, pour te remercier de nous avoir donné, Seigneur, cette parole. Cette parole, Seigneur, qui fortifie nos âmes, qui nous permet de te connaître davantage, de connaître davantage ce que tu accomplis pour chacun de nous, d'en connaître un peu plus ce que tu nous réserves pour l'éternité, même si tu ne nous as pas tout dévoilé. Mais, Seigneur, nos cœurs sont dans la joie ce matin, parce que, Seigneur, à travers Paul, Seigneur, tu accomplis des choses extraordinaires, comme tu veux le faire à travers tes enfants. Et Seigneur, ma prière ce matin, eh bien que ça puisse être celle que Paul a prononcée au verset 21, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain, afin que la personne de Jésus-Christ soit élevée et glorifiée. » Et le peuple de Dieu dit, « Amen. » C'est un fait reconnu que les deux grands évangélistes anglais, John Wesley et George Whitefield, avaient des vues différentes sur certains points de doctrine. Tous les deux avaient un ministère, ils prêchaient devant des milliers d'auditeurs et voyaient les foules venir à Christ. On raconte que quelqu'un demanda un jour à Whitefield s'il pensait que voir John Wesley au ciel. Non, répondit l'évangéliste. Alors, vous ne pensez pas que Wesley soit converti? Bien sûr qu'il est converti, mais je ne m'attends pas à le voir au ciel parce qu'il sera si proche du trône de Dieu et moi si éloigné que je n'arriverai pas à le voir. Bien qu'il y ait eu divergences d'opinion entre Wesley et Whitefield, ceux-ci n'étaient pas jaloux du ministère de l'autre, et ceux-ci ont vraiment mis leurs différences doctrinales de côté pour fixer leurs yeux sur les personnes que Dieu voulait sauver. Ils avaient la conviction que Dieu veut que tous parviennent au salut, que Dieu parvienne tous à la repentance, et d'un commun accord, ils annonçaient l'Évangile qui donne la vie éternelle, qui parle de la personne de Jésus-Christ. Chose extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, vous êtes bénéficiaires aujourd'hui, puisque vous avez entendu parler du Seigneur Jésus, de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour vous, et maintenant, en ayant placé votre confiance en lui, vous le laissez vous guider, et c'est vraiment pour sa gloire. Le verset 19 nous apprend qu'il y avait deux choses qui faisaient la joie de Paul. Il ne faut pas faire une grosse exégèse du texte, c'est très clair. Il dit premièrement, ce qui faisait sa joie, c'est qu'il savait que les chrétiens priaient pour eux. Les chrétiens priaient pour eux. Et moi, ça me bénit de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour moi. Êtes-vous béni de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour vous? Il y a un passage qui dit, priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. L'importance de la prière, et je le vois dans les différents ministères maintenant, et ça réjouit mon cœur. Dieu est en train de provoquer dans le cœur de ses enfants, dans cette Église, un souffle nouveau. Dieu est en train de lever une armée d'hommes et de femmes qui sont en train de prier pour voir encore Dieu accomplir des choses extraordinaires dans son Église à travers ses enfants pour que Jésus-Christ soit glorifié. Frères et sœurs, n'abandonnez surtout pas la prière. Vous allez voir vos enfants ramper devant la croix de Jésus-Christ et crier « Pardon Seigneur, je vois ma misère, je vois mon péché, je suis perdu sans toi. Sauve-moi Seigneur. » Amen. Et j'espère que vous priez pour vos enfants, que vous ne vous fiez pas uniquement sur les frères et sœurs pour prier. C'est d'abord notre devoir en tant que parents de prier pour nos propres enfants. Et de prier pour les enfants des autres aussi, naturellement, pas uniquement pour nos enfants. Cela réconfortait énormément Paul de savoir que les chrétiens priaient pour lui. Hey, vous venez derrière la chair, vous dites, il y a des frères et sœurs qui ont prié avant que je me présente ici pour que Dieu manifeste sa gloire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Tu dis, Seigneur, je m'efface. Je m'efface et toi, tu prends toute la place. Touche le cœur de mes frères et de mes sœurs ce matin. Parle à travers ma bouche pour qu'ils soient exhortés, pour qu'ils soient repris, si c'est le cas, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient édifiés, mais qu'ils sortent d'ici avec l'assurance que tu les as visités, Seigneur. Amen. Oui. Les gens vont dans les discothèques aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils vont parce qu'ils sont malheureux. Ils vont parce qu'ils pensent de trouver un gramme de bonheur. Et finalement, ils sortent de là fort déçus. Ils ont été abusés. Abusés par le prix excessif des boissons. Et aussi abusés parce qu'ils ont dû payer à tout le monde alors qu'ils n'auraient pas dû. Et ainsi de suite. Ça, c'est le monde. Mais quand quelqu'un rentre dans cette église, il sait qu'il n'y a pas personne qui va abuser de lui. Dieu n'est pas là pour abuser des gens. On a abusé de lui, mais Dieu n'est pas un Dieu pour se venger. Dieu est là, c'est un Dieu de grâce. Le trône, encore, aujourd'hui, ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce. Et Dieu veut faire grâce à tous ceux et celles qui rentrent dans ces lieux pour pouvoir se révéler à son cœur et qu'ils puissent commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Paul était heureux, frères et sœurs, que les gens, que les chrétiens puissent prier pour lui. Et j'espère que c'est une joie de savoir quand des frères et sœurs vous appellent pour vous dire, écoute, j'ai ton fardeau à cœur et je prie pour toi, ma sœur, je prie pour toi, mon frère, que vous remerciez le Seigneur Jésus-Christ d'avoir placé dans le cœur de cette femme, de cet homme, eh bien, ce fardeau de prier pour vos enfants, de prier pour vous, de prier pour vos soucis. Ouais. Deuxièmement, Paul était dans la joie aussi, parce que non seulement les chrétiens priaient pour lui, mais ils savaient qu'il y aurait l'aide du Saint-Esprit. C'est la deuxième partie du verset 19. Il savait qu'il pouvait compter sur le Saint-Esprit. Il savait que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Et il savait qu'il pouvait compter sur lui. Et troisièmement, versets 20 et 21, pourquoi il était dans la joie? Pourquoi il avait la conviction que Dieu ne l'abandonnerait pas? Parce qu'il avait accordé à Christ la première place dans sa vie. Christ est ma vie, mourir est un gain. Je suis un chrétien qui ne fait pas de compromis dans ma vie. Je suis un chrétien qui veut être un fidèle témoignage de la personne de Jésus-Christ. Peu importe ce qui va arriver, je veux que Christ se glorifie à travers moi. Trois choses qui faisaient la joie de Paul en plus, malgré les circonstances. Hey, quel frère en Christ, ce Paul! Quel stimulant, ce Paul! Quel encourageant, ce Paul! Encourageur, pardon, ce Paul! Finalement, Paul dit au verset 20 qu'il était confiant quant à sa délivrance parce qu'il avait donné la première place à Christ dans sa vie. Paul était confiant, il dit, « Je sais que cela tournera à ma délivrance, à mon salut. » Et le mot « délivrance » peut signifier « sauver d'un grave danger » ici et peut aussi faire référence au salut. Mais peu importe le sens du mot ici, Paul savait que ce qu'il vivait était temporaire et salutaire. Et le titre de mon message ce matin, je vais le lire parce que je l'ai rajouté un bout ce matin, « Peu importe ce qui vous arrive, vous serez toujours gagnant d'une façon ou d'une autre en Jésus-Christ. » Peu importe ce qui vous arrive, frères et sœurs, vous serez toujours gagnant en Jésus-Christ. Toujours. C'était la conviction de Paul, hein? Verset 21. « Car Christ est ma vie et mourir est un gain. Ouais. » Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il dit « C'est un malade de dire ça, quoi. » Peu importe que je vive, peu importe que je meure, ça m'est égal. Je gagne, j'y gagne. C'est ce que Paul est en train de dire. J'y gagne. Alors qu'il y a tellement de monde qui ont peur de mourir sur cette terre, alors qu'on sait tous qu'on va mourir un jour. Vous connaissez la chanson, hein? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ouais. La devise d'un des clans écossais, c'est « Je grandis sous le fardeau ». Et Paul voyait que toutes ses épreuves et toutes ses tribulations lui étaient profitables. Quelle maturité, ce Paul! De voir que dans les épreuves, il voyait que c'était profitable pour sa vie chrétienne. Hey, on a marché, on a monté quelques marches dans l'escalier spirituel pour en arriver à penser à ça, n'est-ce pas? Quel frère en Christ, ce Paul! Il vient nous stimuler ce matin à dire, écoute, ne t'en fais pas, tu vis les épreuves, les tribulations. Tu ne fais pas de compromis dans ta vie, tu marches droit avec le Seigneur Jésus, ça va être bénéfique dans ta vie ce que tu vis présentement. Dieu veut te faire grandir. Il t'aime. Et Dieu ne veut pas que tu aies toujours l'impression que tu es en train d'adorer un petit Dieu, mais que c'est le Dieu de l'univers qui est en train d'adorer, qui tient ta destinée entre ses mains. Paul progressait dans sa foi et dans sa connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que les épreuves lui apportaient. Il savait, hein, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18, il savait que la souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire éternelle beaucoup plus importante que cette souffrance. Frères et sœurs, un des problèmes de l'Église en Occident aujourd'hui, c'est que l'Église ne souffre pas assez. Quelques tribulations, petite dose de tribulation de temps en temps. Petite dose de persécution de temps en temps. Ça nous permettrait d'évaluer où on en est rendu dans notre relation avec le Seigneur. Dieu n'avait pas changé les circonstances dans lesquelles se trouvait Paul, mais il avait amené Paul à changer face aux circonstances dans lesquelles il se trouvait. Pardon. Paul reconnaissait que Dieu avait tout pris ce qui était arrivé et qu'il l'avait utilisé pour son bien. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler ce matin que Dieu a plusieurs façons de former les hommes et il a plusieurs moyens pour former ses enfants. Souvent, les circonstances de la vie sont les moyens qu'il utilise pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. En décembre 1914, l'usine de Thomas Edison, dans le New Jersey, celui qui a inventé l'ampoule, hein, entre autres, furent lourdement endommagés lors d'un incendie. Edison a perdu près $1 million. Là, on recule il y a 100 ans, 1914. Il a perdu près $1 million d'équipement et de nombreux dossiers furent détruits. Le lendemain matin, marchant sur les ruines de ses espoirs et de ses rêves, le vieil inventeur, alors âgé de 67 ans, nous dit « Les désastres ont leur utilité. Nous voyons toutes nos erreurs être brûlées. » Nous pouvons maintenant recommencer à zéro, c'est ce qu'il disait. Les épreuves ont un effet d'épuration dans nos vies. Quelqu'un a dit « Un nuage le plus épais peut apporter la plus lourde pluie de bénédiction. » Dans le cas de Paul et dans notre cas, c'est vrai. Paul ne se plaignait pas de ses chaînes. Au contraire, il voyait ses chaînes comme étant un outil de bénédiction que Dieu utilisait pour manifester sa gloire. Comme il avait fait plusieurs siècles auparavant, quand il s'était servi du bâton de Moïse et de la fronde de David. Il voyait Dieu utiliser ses anneaux de métal liés les uns aux autres autour de ses pieds et de ses poignets pour son bien. Paul voyait ce que les épreuves pouvaient faire dans sa vie. Et en prenant du recul, Paul voyait ce que les épreuves... je dirais qu'en prenant du recul, nous pouvons voir aussi ce que Paul nous apprend et voir nos problèmes à partir du même angle que lui, afin de pouvoir envisager les bénédictions que nous pouvons retirer des épreuves que nous traversons. Je l'ai dit la semaine passée, ça je m'en souviens, frères et sœurs, quand tout va bien, je vais le dire en bon français, souvent on n'en a rien à cirer de Dieu. On a un compte de banque, on a la mutuelle, on a les hôpitaux, on a un bon travail, sécurité d'emploi. Quand tout va bien, on n'est pas mieux que le peuple d'Israël. Dieu, on est de la même race. Et Dieu est miséricordieux. Dieu est patient, lent à la colère. Hein, c'est la même chose, dans la colère, patient. Et ça ne diminue pas l'amour que Dieu a pour ses enfants. Ça attriste son cœur, mais ça ne diminue pas son amour. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il est temps que je réveille un peu mes enfants, provoque une épreuve, provoque une tribulation, une persécution. Et là, on est secoué. Et qu'est-ce qu'on fait? On est de la même race que les Israélites. On crie à l'Éternel. Et l'Éternel entend les cris de ses enfants, nous dit la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Moi, c'est pour ça que je ne porte pas de jugement ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Même à partir de Genèse, dans le jardin, je ne porte pas de jugement parce que je suis convaincu d'une chose. Si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais fait les mêmes bêtises qu'eux. Je suis de la même race qu'eux. Et Dieu est bon pour ses enfants. Dieu est bon pour son Église. Mais l'Église n'a pas été appelée à vivre dans l'aisance. En tout cas, ce n'est pas les paroles de Jésus. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Et il faut passer par beaucoup de persécutions pour entrer dans le royaume des cieux. nous dit l'apôtre. Celui qui voudra mener une vie fidèle à Jésus-Christ sera persécuté. Frères et sœurs, réalisons-nous les bienfaits que les épreuves apportent dans nos vies. Au sujet de son emprisonnement, John Bunyan raconte « Je n'avais jamais autant ressenti la présence constante de Dieu à mes côtés avant d'être emprisonné. Me fortifiant si tendrement avec telle ou telle parole des Écritures, à tel point que j'en vins à désirer, si cela était permis, des tribulations plus grandes encore pour recevoir une plus grande consolation. » Indiscutablement, le caractère extraordinaire de la vie de Bunyan avait sa source dans sa profonde connaissance des Saintes Écritures, qu'il aimait tant, et dans ses prières persévérantes à Dieu qu'il adorait. Si quelqu'un se demande si Bunyan a fait la volonté de Dieu pendant les 12 longues années qu'il a passées dans la prison de Bedford, il doit reconnaître que ce serviteur de Dieu, en écrivant le voyage du pèlerin en prison, a prêché un sermon qui, près de 3 siècles après, se lit toujours en 140 langues. C'est le plus fort tirage après la Bible. S'il n'avait pas été si ferme dans sa foi, il n'aurait pas été possible que ce sermon prêché par ce ferblantier, pénétré de la grâce de Dieu, puisse continuer encore aujourd'hui à agir dans le cœur des gens. Plus tard, il dit, en parlant de la prison, que ce fut une montagne à partir de laquelle il a pu voir de grandes choses sur Dieu. Il a même confessé que s'il n'avait pas passé 12 ans en prison, il n'aurait jamais pu écrire le voyage du pèlerin. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens ici ce matin. Un deuxième livre que vous devez lire après la Bible, c'est le voyage du pèlerin. Et je vous invite à prendre connaissance de notre ami évangéliste dans le voyage du pèlerin. Ça va vous fortifier. Le voyage du pèlerin. Pas en bande dessinée, là. Je vous parle de celui pour adultes, bien sûr. John Bunyan. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand Corrie ten Boom se trouvait enfermée dans un camp de concentration allemand, son corps entier était infesté de poux, rendant sa situation encore plus pénible. Un jour, alors qu'elle se plaignait de sa situation, sa sœur lui rappela une parole de l'apôtre Paul. « Rendez grâce en toutes choses. » Rendez grâce en toutes choses. Et elle mit au défi sa sœur Corrie de rendre grâce pour les poux. Corrie lui répondit, « Comment puis-je rendre grâce à Dieu pour des poux? » Mais elle prit quand même la décision de rendre grâce à Dieu pour ses poux. Après la guerre, elle va apprendre que les poux l'avaient en fait protégée des agressions sexuelles commises par certains soldats allemands vis-à-vis des prisonnières dans les camps de concentration. Est-ce que nous réalisons, frères et sœurs, que chaque problème ou épreuve apporte sa bénédiction? Ce n'est pas facile à accepter parce que nous avons tendance, et ce de façon naturelle, à fixer nos yeux sur le problème en lui-même. Et plus nous fixons nos yeux sur le problème, et plus nous le voyons plus gros qu'il est. Bon, voilà. Et plus nous le voyons plus gros qu'il est. Y a-t-il des problèmes qui vont déjà empêcher de dormir la nuit? Et vous verriez le lendemain matin, il est réglé. Ça vous a coûté quoi, une nuit de sommeil? Pourquoi? Parce que plus on jongle avec notre problème, et plus il devient gros. Il ne rétrécit jamais le problème, hein? Il devient toujours plus gros. Et finalement, il est toujours beaucoup plus gros que ce qu'on pensait qu'il pouvait être. Et Dieu est quand même là pour intervenir. En tant que chrétien, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paralyse, qui vous empêche d'aller de l'avant ce matin? Vivez-vous une situation difficile? Y a-t-il quelque chose qui vous fait souffrir? Pensez à Corrie ten Boom, pensez à John Bunyan, pensez à Paul, et à tous les autres chrétiens qui nous ont suivis. Ne vous plaignez pas de ces choses difficiles que vous vivez. Réjouissez-vous parce que Dieu est à l'œuvre et qu'il peut les utiliser pour accomplir de grandes choses pour vous dans votre vie et dans la vie des autres. Amen. Face aux épreuves, nous pouvons réagir en nous mettant en colère ou en devenant amers, ou nous pouvons apprendre de Paul et voir la souffrance comme étant un ciseau que Dieu utilise pour modeler des anciens pécheurs à l'image de Christ. Ensuite, nous pouvons voir comment Paul l'a fait. Il dit dans Romains 8, 27, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Il y a des gens qui ont de la difficulté à saisir ce passage-là, parce qu'ils ont été abusés dans leur jeunesse, parce qu'il est arrivé toutes sortes de choses. Paul n'est pas en train de citer ça pour ce qui s'est passé avant qu'on connaisse le Seigneur. Il est en train de parler de ceux qui aiment Dieu. Il est en train de parler des frères et sœurs en Christ, de ceux qui marchent dans l'obéissance. Vous pouvez être certain que Dieu n'est pas devenu votre Dieu pour votre malheur. Il est devenu votre Dieu pour vous soutenir dans tout, dans les bons comme dans les mauvais moments. et que tout ce qu'il provoque dans votre vie concourt à votre bien, c'est-à-dire va vous faire grandir dans votre foi et dans votre connaissance de la personne de Jésus-Christ. À cause de sa relation avec Christ, Paul pouvait donc voir à travers les épreuves qu'il vivait des choses incroyablement merveilleuses que Dieu avait faites. Frères et sœurs, si Paul ne marchait pas dans la vérité, si Paul n'avait pas cette relation intime qui est accessible à tous les chrétiens, il n'aurait pas pu écrire ses paroles dans Philippiens. Il se serait lamenté comme beaucoup de gens se lamentent quand il arrive quelque chose dans leur vie. Et ce n'était pas une petite chose qui lui arrivait. Il était en prison, non pas pour quelque chose de mal qu'il avait fait, mais pour quelque chose de bien qu'il avait fait. Proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Quelle maturité chrétienne, ce Paul! Quelle maturité! Frères et sœurs, avez-vous la conviction dans votre cœur que Dieu veut nous amener à la même maturité que Paul? Oui. C'est le même Jésus-Christ qui veut se révéler à vous ce matin, comme il s'est révélé à Paul il y a plusieurs siècles. C'est le même Jésus-Christ qui va accomplir des choses extraordinaires à travers vos vies, qui veut faire de vous des encourageurs, des exhorteurs, des évangélistes, pour proclamer la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler ça des églises protestantes évangéliques, on devrait appeler ça des églises protestantes évangélistes, parce que c'est le rôle de l'Église de Jésus-Christ. Proclamer l'Évangile autour de nous. Rapidement, hein, si Paul avait appris ce que les épreuves ou les moments difficiles pouvaient faire, il a aussi découvert que les épreuves et les tribulations ont un impact limité dans nos vies. Il avait la certitude que rien, y compris les épreuves et les tribulations, rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39, « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. » Amen. Rien ne peut séparer cet amour. Rien, rien, rien. Vous faites le bien, ça n'amène pas Dieu à vous aimer davantage. Vous faites le mal, ça n'amène pas Dieu à vous aimer encore moins. Dieu vous aime, nous aime tous de façon égale. Vous marchez dans la vérité, le cœur de Dieu se réjouit. Vous faites des compromis dans votre vie, le cœur de Dieu est attristé, mais il vous aime, il nous aime tous de façon égale. Il est attristé quand il voit ses enfants faire des compromis parce qu'il ne peut pas accomplir les miracles, les prodiges et les guérisons à travers ses enfants qu'il voudrait accomplir pour les autres. Et il est dans la joie quand on voit qu'on marche dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il voit que Christ est glorifié et il peut manifester sa gloire, c'est-à-dire sa présence, sa puissance et ses attributs au milieu de son peuple et dans ce monde qui est perdu. Paul était convaincu que les épreuves et les tribulations que nous vivons ne pourront jamais remporter la victoire sur nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, écrit-il, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. On nous persécute, mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Quel sujet de louange ce matin! Seigneur, je vis des épreuves, elles ne sont pas faciles à porter, mais je sais que tu es là, que tu ne m'abandonnes pas. C'est une promesse que tu me fais, Seigneur. Et tu n'es pas un menteur, Seigneur. Nous sommes jetés à terre, mais non détruits, dit-il. En clair, frères et sœurs, Dieu est plus grand que n'importe quel problème que vous et nous pouvons faire face, incluant la mort elle-même. Regardez ce que Paul dit au verset 20-21. Selon, et moi, un des mots importants ici, c'est le mot « ferme ». Selon ma ferme attente et mon espérance. Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps en ayant une pleine assurance, soit que je vive, soit que je meure, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. En d'autres mots, pour moi, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? Pour moi, la vie, c'est vivre pour le Christ et compter sur lui, et la mort, c'est encore mieux. Pourquoi c'est encore mieux pour l'apôtre Paul? Fini les épreuves, fini les persécutions, fini le problème du péché, fini de voir la misère dans ce monde, que le péché, jusqu'à quel point le péché fait des ravages. Ah, il faut être blindé en Jésus-Christ pour sortir une phrase comme ça, frères et sœurs. Verset 20-21, « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Ça veut dire que tu dis ça, là, hein? Tu dis « Je peux partir, il n'y a rien, rien qui m'appartient sur cette terre. » Rien, rien, rien. Rien. C'est ça, hein? Hey, dire la mort m'est un gain. Mais je ne verserai pas des larmes parce que je laisse ma maison, parce que je laisse ci, je laisse ça. ma mort est un gain. C'est encore mieux. C'est encore mieux pour moi. Pourquoi? Parce que je m'en vais dans la présence de mon Sauveur. À partir de la croix, comme Jésus l'a dit au malfaiteur sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis est ouvert aux enfants de Dieu, aux héritiers de Christ. Et c'est un gain pour moi. Parce que je vais avec mon Sauveur, passer l'éternité avec mon Sauveur. Hébreux chapitre 11, verset 27. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi, et il demeura ferme, comme s'il voyait le Dieu invisible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En français courant, on dit avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est... Ah, ben, je viens de le dire, OK. Je pensais l'avoir écrit en Louis II. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et on va essayer de terminer rapidement. Je vous invite à tourner avec moi dans Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 15. C'est Élisée qui est protégé miraculeusement par le Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Méditez ce passage-là et demandez-vous qu'est-ce que ça signifie pour vous dans votre vie chrétienne. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Regardez dans l'Ancien Testament. C'est Élisée qui dévoilait les plans militaires de la Syrie. Et là, le roi de Syrie en a ras-le-bol et il envoie son armée. Il envoie des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 14, 6-14. Et verset 15. 6-14. Je n'aurais pas donné le chapitre? Excusez. 6-14. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui est avec Élisée. Il se lève de bon matin, il sort. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui peut se lever contre les enfants de Dieu? Le serviteur, il marchait par la vue. Tout ce qu'il voyait, c'est ce que le monde pouvait lui offrir. Une armée de chars et de chevaux. Élisée marche avec les yeux de sa foi. Et il voit dans le monde invisible. Il est attaché aux choses invisibles. Et qu'est-ce qu'il voit? L'armée céleste qui est là. Et qui va s'apprêter à combattre pour le serviteur de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je ne connais pas votre théologie, mais vous avez deux choix. Soit vous avez le droit de penser que ça, c'était bon pour l'Ancien Testament et que c'est fini pour le Nouveau Testament. Mais j'aimerais vous amener dans Hébreux, chapitre 11, verset 14. Élisée avait à sa disposition une armée d'anges qui était prête à combattre pour lui. Et il va s'en sortir. Le texte nous dit même que l'armée syrienne n'est jamais revenue sur la terre de Syrie, d'Israël. 1, 14. Hébreux 1, 14. Que sont les anges? Que sont les anges? Ah! On les voit encore dans le Nouveau Testament. Il ne dit pas qu'étaient les anges? Que sont les anges? Il parle au présent. Ce sont tous des esprits au service de Dieu pour venir en aide à ceux qui doivent hériter le salut. Vous devez hériter du salut? Vous avez Dieu à des anges pour vous protéger. On a des histoires dans le monde. Je me souviens d'une tentative de viol où une chrétienne a été protégée. Elle dit clairement qu'elle était protégée par un ange. Frères et sœurs, si les anges, ça se termine à l'Ancien Testament, bien, dans Luc, il y en apparaît, et il y en a ailleurs aussi. Puisque sans le savoir, il y en a qui ont recueilli des anges. Il y en a qui font référence à Lot, mais je pense que ça peut s'être passé à d'autres moments de l'histoire aussi. Frères et sœurs, que sont les anges? Ce sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, pour venir en aide à ceux qui doivent hériter le salut. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? En tant que chrétiens, vous et moi, nous avons le même pouvoir parce que rien ne peut vraiment nous faire du mal. Depuis que Jésus a vaincu la mort pour nous, nous sommes littéralement intouchables. Rien ne peut vraiment nous faire du mal. Car même la mort nous amène dans la présence de Dieu pour l'éternité. Si vous vivez par vos sentiments ce matin, tout continue à vous faire du mal. Si vous vivez par la foi, vous vivez par la foi, pour la foi et par la foi en Jésus-Christ. Et là, c'est différent. Comme l'ange de l'Éternel combattait pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, de la même manière, Jésus continue à combattre pour ses enfants aujourd'hui. Il nous protège. Amen. Voilà pourquoi il est très difficile pour moi de comprendre pourquoi certains chrétiens décident d'abandonner la foi en Dieu à cause des épreuves ou des tribulations qu'ils traversent. Ma simple logique dit abandonner pourquoi d'autre? Tout dans cette vie a ses limites. Il n'y a rien d'autre qui peut vous aider, vous protéger lorsque surviennent les moments difficiles. Certains disent, pour moi, vivre, c'est amasser de l'argent, et mourir, c'est tout laisser derrière moi. Pour moi, vivre, c'est connaître la gloire, et mourir, c'est d'être rapidement oublié. Pour moi, c'est posséder le pouvoir et devenir une personne influente, et mourir, c'est perdre les deux. Pour moi, c'est acquérir des biens, et mourir, c'est partir avec rien dans les mains. Mais pour Paul, sa vie, c'était Christ, et mourir, c'était un gain. D'une certaine manière, tous les compteurs tombent à zéro, n'est-ce pas? Lorsque l'argent est notre objectif, nous vivons dans la peur de la perte, ce qui nous rend paranoïaque, et méfiants. Lorsque nous vivons pour connaître la gloire, nous compétitionnons avec les autres, ce qui nous rend jaloux. Lorsque nous vivons pour posséder le pouvoir et devenir une personne influente, nous devenons égoïstes et nous ne pensons qu'à notre propre intérêt, ce qui nous rend arrogants. Et lorsque les biens matériels que nous possédons deviennent nos dieux, nous devenons matérialistes. Nous en voulons toujours plus, ce qui nous rend gourmands. Seul Christ peut nous satisfaire, même si nous possédons ou pas, même si nous sommes connus ou pas, même si nous vivons ou si nous mourons. Katie Sternfeld, une sœur de l'Église baptiste de Redland, partageait récemment à son Église qu'elle devait subir prochainement une double greffe, une greffe de foie et une greffe de rein. Elle était tellement calme lorsqu'elle a partagé ces choses qu'une sœur de son Église l'a appelée pour en savoir davantage sur sa situation. Elle a appris que Katie avait toujours souffert d'une anomalie génétique et qu'elle avait toujours su qu'un jour ou l'autre, elle aurait besoin de ses greffes. Elle fit remarquer que sa foi en Dieu lui avait donné la force d'affronter cette situation extrêmement difficile avec calme. Elle ajouta, « Je sais que peu importe ce qui surviendra, je serai de toute façon gagnante. Je ne sais pas comment les gens font pour faire face à la vie sans avoir la foi en Dieu. » Cathy savait que si vous devez placer votre confiance en quelque chose dans cette vie, seul Jésus est digne de confiance parce qu'il est le seul moyen pour nous de vaincre la mort. Comme Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 15, 55-57, « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. La loi, voilà pourquoi la loi ne peut pas sauver. La loi ne peut condamner. La loi ne fait que mettre en lumière le péché de l'homme. Mais gloire soit rendue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. » Paul continue, « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Frères et sœurs, quand vous avez envie de baisser les bras, que vous êtes découragés, que vous commencez à vous apitoyer sur votre sort, arrêtez et pensez à tout ce que Jésus a supporté pour vous. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous laissiez pas abattre et que vous ne vous découragiez pas. Dans votre combat contre votre péché, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes au chômage depuis un an ou plus. Considérez les attaques et les critiques qu'il a subies, les injures et les cruautés dont il a fait l'objet, non pas dans son propre intérêt, mais dans le vôtre. Vous êtes peut-être face à des difficultés ce matin, bien réelle et décourageante, mais ce que vous vivez en réalité, si vous êtes un enfant de Dieu, est une mise à l'épreuve de votre foi. C'est toute la différence entre la façon de voir les situations difficiles qu'on vit de la part d'un non-croyant et d'un chrétien. Toute situation difficile que Dieu permet que vous viviez dans votre vie est une mise à l'épreuve de votre foi. Et le but, c'est de pas faire, c'est pas de faire en sorte que votre foi diminue, mais que votre foi puisse augmenter. Et l'autre but aussi, c'est de permettre à Dieu de voir, que vous puissiez voir où vous en êtes rendu au niveau de votre foi. Il est facile de faire confiance en Dieu quand tout va bien. C'est beaucoup plus difficile quand ça va mal, quand vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts, ou encore quand une personne sur qui vous comptiez est sortie de votre vie. Mais ce sont là autant de tests de votre foi. Je connais quelqu'un qui fréquente notre Église et qui a pris conscience de son salut lors du décès de sa mère. Les gens pleuraient, certains perdent quelqu'un qu'on aime. Mais à travers ce décès, Dieu a su toucher le cœur d'une personne et de dire, toi, quand ton jour viendra, est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité? Et cette personne a commencé à faire une démarche personnelle et aujourd'hui, cette personne, elle est maintenant un enfant de Dieu. Pour nous, c'est horrible d'aller dire ça à quelqu'un. Mais je vous l'ai dit au tout début du message, Dieu a des moyens illimités pour atteindre le cœur des gens. Des moyens peut-être que nous-mêmes, on ne jugerait pas nécessairement dignes. Mais Dieu sait mieux que nous comment atteindre les gens, puisqu'il nous connaît encore mieux que nous-mêmes. La foi de Paul le rendait capable de voir certaines choses que la plupart des gens ne voient pas. Les épreuves et les difficultés peuvent nous apporter beaucoup, en fait. Ils peuvent être vraiment bénéfiques pour nous. J'ai déjà dit, excusez, merci d'avoir prié pour moi cette semaine. Ça va de mieux en mieux. J'ai déjà dit qu'après ma conversion, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est mon cancer. Allez dire ça à un non-chrétien. Les bearings ne tournent pas bien dans sa tête, hein? Il y a des écrous qui sont mal vissés, quoi. Ouais. Je le répète, je n'ai jamais été, Dieu ne m'a jamais autant repris que dans la maladie. Et ça a confirmé que j'étais né de nouveau. Facile de dire, j'ai accepté Jésus-Christ, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Ah ouais. Mais dans ton cœur, as-tu la certitude que si Dieu vient te chercher aujourd'hui, tu t'en vas passer l'éternité dans le paradis? Sur quoi tu te bases ce matin? Sur tes sentiments? Sur ta foi? Moi, je suis pasteur, je connais la parole. Je ne la connais pas parfaitement, mais je la connais. Je connais quelques versets. Oui, sauvé, toujours sauvé. Oui, je suis né de nouveau. Mais dans la maladie, il y a des gens qui disaient que je faisais le déni de ma maladie. Non. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, je l'ai expérimentée dans ma maladie. Quand on dit que Dieu est un père pour ses enfants, je l'ai senti dans ma maladie pour la première fois de ma vie. Je le connaissais comme créateur, je le connaissais comme sauveur, mais je ne l'avais jamais connu. Je n'avais jamais expérimenté le côté paternel de Dieu. Dans ma maladie, Dieu me portait dans ses bras, je vous le dis. Il me portait dans ses bras. Et j'étais capable de le louer. Ma préoccupation, ce n'était pas que je parte. C'était la femme et les quatre enfants que je laissais derrière. Et Dieu a apaisé mon cœur, il a dit, écoute, de la même manière que tu étais capable de t'en occuper, je vais être capable de m'en occuper, ne te préoccupe pas, si je te rappelle à moi. Frères et sœurs, les épreuves sont bénéfiques pour le chrétien, parce que c'est un test incroyable pour notre foi. Et Dieu se glorifie. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Dieu n'envoie pas d'épreuve au-delà de vos forces. Et non seulement quand il vous envoie l'épreuve, il a déjà le moyen de vous en sortir. Dans notre nature humaine, on dit, Seigneur, c'est trop. Ben non, fiston, laisse-moi m'occuper de toi. Je sais ce que tu as besoin, parce que je veux te faire grandir. Moi, je veux te faire grandir. Je veux pas que tu restes un nouveau-né dans Jésus-Christ. Je veux te faire grandir. Je veux t'amener une certaine maturité parce que me glorifier à travers toi. Et je vais t'amener à me louer pour les épreuves que je t'ai permis de vivre, parce que ça a développé en toi une plus grande connaissance de la personne de Jésus-Christ, et ça a augmenté la mesure de ta foi au-delà de ce que tu pouvais penser. Quel Dieu nous avons, frères et sœurs! Quel témoignage nous avons de l'apôtre Paul! Un gars qui a participé à un meurtre, un religieux fanatique comme on voit dans certains pays aujourd'hui. Et Dieu dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi, Paul. Non pas pour que tu continues à appliquer la loi aveuglément, mais que pour que tu puisses annoncer ma grâce en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ n'a pas été implantée pour annoncer la loi de Dieu, pour condamner les gens, mais pour proclamer la grâce qu'elle a reçue en Jésus-Christ. Nous étions tous perdus, et en Jésus-Christ, nous sommes tous sauvés. Amen. Ouais. Et c'est le message que les gens de l'extérieur ont besoin d'entendre. Seigneur, ouvre ma bouche et parle, Seigneur. Ouvre ma bouche et parle à travers moi. Seigneur, je voudrais témoigner du changement que tu as fait dans ma vie. C'est ça, hein, évangéliser, hein? C'est ça. C'est juste ça, hein? C'est pas un paquet de versets appris par cœur, hein? Parce que ça risque d'être du chinois pour la plupart des gens. Les gens, ce qu'ils ont besoin de rencontrer aujourd'hui, d'entendre, c'est pas des gens qui ont une connaissance de la parole de Dieu, mais des gens qui ont une connaissance du Dieu de la parole. Avoir la connaissance de la parole de Dieu, ça risque d'être religieux. Mais avoir une connaissance du Dieu de la parole, c'est une relation. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ ni le Dieu de Jésus-Christ sans vivre une relation avec lui. Et ce matin, dans cette salle, j'espère que pour personne, Jésus n'est pas seulement un nom, mais qu'il est une personne vivante. Et les gens à l'extérieur ont besoin d'entendre votre témoignage. Écoute, moi je suis chrétien, j'aimerais te partager ce que Jésus a fait dans ma vie, les bouleversements qu'il a opérés, l'assurance qu'il m'a donnée pour l'éternité. Et je vis en fonction de ça, et je veux te partager ce message. Amen. Vous avez la solution en Jésus-Christ, frères et sœurs. Vous n'avez aucune raison de souffrir d'un sentiment d'insécurité ni d'infériorité. Partagez ce que Jésus fait dans votre vie. Et si Jésus ne fait rien dans votre vie, plongez à genoux, plongez vos regards dans la parole de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui m'en va? Ce n'est pas toi qui fais défaut. Il y a peut-être quelque chose que moi j'ai perdu de vue. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore connu et que j'aimerais donc connaître. Qui me donnerait cette assurance que tu es présent dans ma vie à tous les jours et que je serai avec toi pour l'éternité. Quel homme cet apôtre Paul pour nous encourager ce matin. Et j'espère que je n'ai pas découragé personne, ce n'était pas mon but, mais vous encourager. Vous n'êtes pas n'importe qui pour le Seigneur Jésus. Vous êtes des héritiers de Dieu et des co-héritiers en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prendre deux ou trois personnes pour prier ce matin et on va terminer par un cantique. Prions.